Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La Turquie dans la tourmente, et pas seulement sur le front politique, dans un contexte de crise et d'attentats à répétition. L'économie donne aussi des signes de faiblesse. Pour la première fois depuis 7 ans, le PIB est à la baisse. On est donc loin du miracle salué il y a quelques années autour des réformes portées par Erdogan. L'effondrement du tourisme, moins 30% de recettes, est le symptôme le plus voyant. Mais en fait, ce sont presque tous les secteurs qui sont touchés. C'est le reportage à Istanbul d'Anand Lauer.
Dans son bureau de Taksim, la célèbre place d'Istanbul, Ilan Uçak regarde sans conviction un téléphone qui ne sonne pas. Son agence de voyage travaille depuis 35 ans avec des clients français. Et des clients ces derniers mois, Ilan n'en a quasiment pas. Une querelle avec la Russie, une série d'attentats. L'an dernier, le nombre de touristes et les recettes du secteur ont chuté de 30%. La saison 2017 ne s'annonce pas plus réjouissante.
La situation est trop catastrophique. D'ailleurs, jusqu'à presque 2016, les terroristes ont attaqué toujours soit la police, soit les soldats. Mais depuis 2016, ils ont bien vu que le tourisme dans le pays, du point de vue économique aussi, est très important. C'est pour cette raison-là qu'ils ont commencé à faire peur aux touristes. Pour le moment, tout le monde essaie de résister. Je ne sais pas jusqu'où peut-on résister.
Au troisième trimestre 2016, le produit intérieur brut, le PIB, a reculé de près de 2%, du jamais vu depuis 2009. Certes, les autorités ont modifié leur mode de calcul et les économistes peinent à évaluer cette baisse. Il n'empêche, les principaux indicateurs sont mauvais. Le chômage dépasse 12%, un record depuis 2010. Les exportations ont baissé de près d'1%. Seyfettin Gürsel est professeur d'économie à l'université Bahçeşehir. Selon lui, l'effondrement du tourisme lié aux attentats est loin d'être le seul facteur.
Il ne faut pas non plus croire qu'une fois qu'il n'y aura plus de bombes, l'économie turque va repartir. On s'aperçoit qu'en fait, par exemple, dans le secteur manufacturier, la contraction commence au premier trimestre, se poursuit au deuxième trimestre, et finalement au troisième, évidemment, il y a une chute assez frappante. Donc en fait, on a l'impression que les problèmes dans l'économie turque ont commencé bien avant.
Exemple dans le textile, considéré pendant des années comme une locomotive de l'économie turque. Sur les 9 premiers mois de 2016, le nombre de salariés du secteur, premier employeur de Turquie, a baissé de 3%. İlker Karataş, président de l'association des professionnels du textile d'Osman Bey, l'arrondissement le plus dynamique d'Istanbul pour ce secteur, ne cache pas ses difficultés.
Il est clair que 2016 a été une année noire. Ici, nous avons subi une baisse de 30% de nos exportations. Il n'y a qu'à se promener dans le quartier. Avant, malgré des loyers faramineux, vous n'auriez trouvé aucune boutique vide. Aujourd'hui, les loyers ont baissé de moitié et pourtant, beaucoup de vitrines sont restés fermés. Dans toute la Turquie, nos exportations de prêt-à-porter n'ont pas dépassé 16 milliards de dollars l'an dernier, contre 18,7 milliards en 2014. Et on peut encore s'estimer heureux, vu les conditions très négatives dans lesquelles nous travaillons.
Les raisons structurelles du ralentissement de l'économie turque sont anciennes et connues. Une dépendance excessive de la croissance à la consommation des ménages, un endettement des grandes entreprises en devises qui les rend vulnérables au mouvement rapide des taux de change, une balance des comptes courants déficitaire et plus globalement, un tarissement des réformes depuis 3 ans. Seyfettin Gürsel pointe aussi du doigt une cause conjoncturelle.
Le suspect de premier ordre, évidemment, c'est le climat politique. Les incertitudes à propos des intentions de M. Erdogan. La Turquie, maintenant, c'est avant la Chine, le premier pays à avoir le plus de journalistes en prison. Même on a confisqué leurs biens, alors qu'il n'y a pas encore de jugement annoncé. Tout ça, évidemment, crée un climat assez alarmant pour les investisseurs étrangers aussi.
En dépit de ses coups de canif réguliers à l'état de droit, le président Recep Tayyip Erdogan était crédité d'avoir installé un climat favorable au business depuis son arrivée au pouvoir en 2003. Mais cela est en train de changer avec la répression massive qui a suivi la tentative de putsch de juillet 2016 et le renforcement des pouvoirs du chef de l'État. Un référendum sur l'instauration d'un régime présidentiel doit se tenir le 16 avril. Le ralentissement économique pourrait-il détourner un nombre important d'électeurs du parti au pouvoir? Seyfettin Gürsel en doute.
Même si certains électeurs qui votent pour AKP, pour le parti au pouvoir, commencent à subir les effets de cette croissance négative, qu'on leur fait croire qu'en fait tout ça arrive à cause de, d'abord des putschistes, des terroristes, etc. Et qu'une fois que M. Erdogan sera le président avec les pleins pouvoirs, la Turquie, l'économie turque va repartir vers les nouveaux sommets. Donc ça dépend dans quelle mesure ces électeurs y croient ou pas. Moi j'ai l'impression qu'ils y croient beaucoup.
Le raidissement autoritaire va-t-il ouvrir plus de marge de manœuvre pour les réformes structurelles ou au contraire maintenir le pays dans l'indécision et une croissance tirée par la consommation et les grands travaux? Il est encore trop tôt pour le dire. Les économistes attendent les chiffres de la croissance au dernier trimestre 2016 pour affiner leurs pronostics.
Traitement inhumain et dégradant, c'est ainsi que les Nations Unies qualifient la façon dont les réfugiés sont accueillis, ou plutôt mal accueillis, en Bulgarie, alors que le pays a édifié une clôture sur sa frontière sud et renforce les contrôles sur sa frontière avec la Turquie. Les cas de violence se multiplient dans une indifférence presque générale. Pour en parler, on retrouve notre correspondant à Sofia, Damien Vodenicharov. Bonjour Damien.
Bonjour.
Commençons par les deux derniers incident. Qui sont ces réfugiés qui ont été chassés de deux communes?
Alors dans un de ces cas, il s'agit de deux jeunes Afghans, des mineurs, qui ont été installés dans un foyer à Chirok al-Laka. C'est une petite commune de 500 habitants située au sud, près de la frontière avec la Grèce. Et les habitants se sont dit prêts à bloquer des routes pour protester contre l'arrivée de ces deux jeunes, dont, d'après eux, personne ne sait rien. Le maire de la commune a fourni la même explication après avoir refusé de les accueillir. Et les deux mineurs ont alors été envoyés dans une autre ville, puis répartis encore une fois dans des camps de réfugiés. Dans le deuxième cas, il s'agit d'une famille syrienne qui a obtenu le droit d'asile, ce qui veut dire qu'elle a les mêmes droits que les ressortissants bulgares. Les autorités de la ville d'Elin Pelin, près de Sofia, refusent pourtant de leur fournir des papiers d'identité ou un numéro de sécurité sociale, malgré leur obligation de le faire. Et le maire, issu d'un groupe nationaliste, dit simplement obéir encore une fois à la volonté de ses concitoyens.
Et est-ce qu'il y a eu des réactions au niveau national, notamment de la part du gouvernement?
Non, seule l'Agence pour les réfugiés, c'est l'institution qui gère les demandes d'asile et les camps de réfugiés, s'est contentée de dire qu'il n'y avait aucune raison légale pour ne pas accueillir des réfugiés dans telle ou telle commune. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas non plus la première fois que ça arrive, bien au contraire, un groupe de Syriens avait été chassé d'un village au pied des Balkans il y a 2 ans. Peu de temps après, les habitants d'un autre village près de Sofia avaient refusé de laisser les enfants des demandeurs d'asile aller à l'école. Les raisons mises en avant étaient encore une fois que c'était des inconnus dont on ne savait rien. Et même à Sofia, les tensions montent au sein des quartiers où se situent les camps. Ce sont d'ailleurs souvent des points de ralliement des manifestations contre l'accueil des réfugiés organisées par les partis nationalistes. Au novembre, il y a même eu des échauffourées entre la police et les migrants installés à Armanli, dans un des plus grands centres d'accueil du pays. Plus de 400 personnes avaient été interpellées et 25 policiers avaient reçu des blessures.
Donc on peut dire, Damien, c'est surtout un climat de méfiance qui règne.
Oui, tout à fait. C'est un climat de méfiance ou même de peur qui règne dans les petites communes où s'installent des réfugiés, mais aussi dans les grandes villes où il y a des centres d'accueil. Les demandeurs d'asile sont largement perçus comme des menaces à la sécurité nationale du pays. 60% des Bulgares partagent cet avis, d'après les sondages, alors que seuls 15% pensent qu'ils ne le sont pas. En même temps, on observe une poussée très importante des nationalistes qui ont obtenu 15% des voix à la présidentielle de novembre. La méfiance et la peur des migrants sont devenus en fait des enjeux politiques, ici comme ailleurs. Et donc, aucun parti ne veut prendre le risque de perdre une partie de son électorat en défendant les droits des réfugiés, en ce moment surtout que la Bulgarie se trouve dans un no man's land politique avec un gouvernement intérimaire qui prépare des élections anticipées à la fin mars.
Merci Damien Vodenicharov à Sofia.
Never give up when you are in a rut. Never give up when life sucks. Never give up when the system is corrupt. Never give up when the future looks fucked.
En Belgique, Delphine Bouel sera-t-elle reconnue fille de l'ancien roi des Belges Albert II ? Une nouvelle audience judiciaire doit se tenir aujourd'hui à Bruxelles. L'artiste plasticienne de 48 ans souhaite qu'Albert II reconnaisse sa paternité et se soumette à un test ADN, ce qu'il refuse de faire. Depuis des années, son portrait est signé Lakshmi Lotha.
Elle est la fille illégitime. Demain, c'est son anniversaire. Delphine Bouel espère depuis des années que l'ancien souverain, Albert II, 83 ans, reconnaisse publiquement sa paternité, qu'il sorte du silence. Elle a débuté son action en justice en 2013. Elle serait née de la relation extra-conjugale entre Albert II, alors prince de Liège, avec la baronne Sibylle de Célis-Longchamp. Quand les médias révèlent l'existence de Delphine Bouel en 1999, le souverain admet avoir eu des problèmes conjugaux, mais il s'arrêtera là. À ceux qui l'accusent de simplement vouloir ennuyer la famille royale, Delphine Bouel, artiste plasticienne, dit avoir réussi sa vie et ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. Elle apparaît très émue quand elle apprend il y a un an que sa demande est acceptée par le tribunal. Elle obtient le droit de poursuivre sa recherche en paternité. Il n'y a pas prescription. Face à cet ancien roi qui refuse même de se rendre au tribunal, il faut beaucoup d'humour, dit-elle. « Je ne suis pas du genre à me laisser décourager », avance l'artiste aux grands yeux bleus. « Je le fais aussi pour mes enfants, pour les autres. C'est important de savoir d'où l'on vient, que ce soit Albert II ou quelqu'un d'autre. Il se trouve qu'il s'agit d'un ancien roi. Cela complique mon affaire », explique-t-elle toujours avec humour. Delphine Bouel, artiste reconnue, expose souvent à Bruxelles, reste discrète, des sculptures en papier mâché coloré, des trônes et des couronnes apparaissent dans son œuvre. Hasard du calendrier, l'artiste plasticienne expose en ce moment au musée d'Ixelles. Une rétrospective lui est consacrée. Elle s'intitule « Never Give Up, n'abandonne jamais ».
Sarajevo, longtemps considérée comme la ville du vivre ensemble, a aussi compté une importante communauté juive. Avant la guerre, 20% de ses habitants étaient juifs. Il n'y avait alors ni ghetto, ni loi antisémite. C'était avant que l'occupant nazi ne décide l'extermination de toute la communauté. Aujourd'hui, la capitale bosnienne redécouvre ce passé et souhaite le faire partager aux touristes. C'est le reportage de Mercia Nizic.
Joseph, un touriste américain, contemple un peu étonné ce bâtiment de pierre vieux de 5 siècles. À l'architecture orientale, il abrite le musée consacré à l'histoire des Juifs de Bosnie.
Pourquoi je suis surpris ? Parce qu'il y a déjà ici des orthodoxes, des catholiques, une communauté musulmane aussi. Très intéressant. Il y a beaucoup d'histoire ici.
Le plus grand cimetière séfarade d'Europe se trouve à Sarajevo. La pierre tombale la plus ancienne remonte au XVIIe siècle. Elle appartient au premier rabbin de la ville. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques centaines de juifs à Sarajevo. Du coup, la synagogue séfarade abrite le musée de l'histoire des juifs de Bosnie, Mario Kobilio, le conservateur.
Ce qui est original, c'est que le musée se trouve dans un bâtiment qui est toujours une synagogue. Certes, elle n'est ouverte qu'une fois par an, mais elle reste active. Le reste de l'année, c'est un musée. Les prières ont lieu au rez-de-chaussée. Il y a une Torah, le livre saint des Juifs, et aussi un bouclier pour la protéger symboliquement du mal.
En bonne place dans le musée, une copie de la Haggadah, un trésor sarajevien. C'est un manuscrit juif vieux de 600 ans, l'un des manuscrits en hébreu les plus richement enluminés du monde. Tout au long de l'histoire, il a fallu le protéger contre le vol et la destruction, comme nous l'explique Eli Tauber à la tête de l'association culturelle Haggadah.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un officier allemand a été envoyé au musée de Bosnie pour prendre la Haggadah de Sarajevo. Mais le directeur et le conservateur de l'époque ont décidé d'inventer une histoire. Ils ont raconté que quelqu'un était déjà passé prendre le manuscrit. Après le départ de l'officier allemand, ils l'ont planqué chez un paysan. Et ce n'est pas fini. Quand Sarajevo a été assiégé et bombardé il y a 20 ans, le directeur du musée de l'époque s'est fait aider par la police de la ville pour déplacer le manuscrit du musée national vers un coffre de la Banque d'État.
Des musulmans ont sauvé la Haggadah plusieurs fois dans l'histoire. À Sarajevo, il n'y a jamais eu de ghetto juif ni d'antisémitisme, au plus grand étonnement des visiteurs étrangers. Dino Bajdarević en a fait l'expérience récemment lors d'une de ses visites guidées. Il n'oubliera jamais la réaction d'une touriste israélienne bouleversée par le vivre ensemble sarajevien.
Il y avait une femme qui était là et l'a visitée la plus grande partie d'Europe et du monde. Et puis elle me disait, chaque fois que j'étais devant une synagogue ou quelque chose comme ça, dans 90% de cas, elle m'a dit qu'il y a eu des policiers qui étaient devant, qui protégeaient les synagogues ou quelque chose comme ça. Elle me dit, nous sommes à Sarajevo, une ville majoritaire musulmane, et il n'y a personne. Moi j'étais choqué, pourquoi quelqu'un doit protéger une maison de Dieu?
Si des musulmans sauvaient des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, l'inverse s'est aussi produit il y a un peu plus de 20 ans. Sarajevo a été assiégé à l'époque par l'armée serbe pendant plus de 3 ans. Eli Tauber.
À ce moment-là, des juifs ont aidé les musulmans comme ils l'ont pu, en donnant de la nourriture, des médicaments, des vêtements. Le plus intéressant, c'est qu'on a aidé environ 1500 personnes à quitter Sarajevo assiégé. Les juifs n'étaient pas ciblés par les assiégeants. Ils les laissaient quitter la ville dans des convois de réfugiés. Du coup, des juifs qui ont réussi à sortir de Sarajevo ont donné leur propre carte d'identité pour qu'elle soit falsifiée et que des gens puissent sortir de la ville assiégée en se faisant passer pour des juifs.
Eli Tauber va mettre la main à la pâte lui-même. Avec sa femme, cet historien va cuisiner des plats traditionnels séfarades sur commande. Les touristes pourront les prendre dans plusieurs restaurants de Sarajevo. Les premiers touristes sont attendus avec le retour du beau temps en mois de mars.
Le design scandinave n'a peut-être jamais été aussi populaire. La semaine dernière, 40 000 visiteurs se sont pressés au Salon international du meuble à Stockholm, en Suède. Un marché résolument tourné vers l'exportation, comme l'a constaté sur place Sébastien Orion.
La cinquantaine heureuse d'Johan Elström nous guide à travers l'immense palais des congrès de Stockholm. Ce designer suédois connaît dans le détail les moindres tendances, mais aussi toute l'histoire du design à la nordique. Simplicité des formes, assemblage léger, matériaux de qualité restent la marque de fabrique.
Cet objet, à mon avis, est vraiment le parfait représentant du nouveau type de design à la scandinave. C'est une chaise à barreaux traditionnelle, mais redessinée en quelque sorte, et c'est ce que je recherche ici. Cette chaise résume le développement actuel de nos productions. Elle est petite et légère, d'allure très simple, mais avec de très belles formes, en bois massif bien sûr, sans trop d'artifice, mais avec de petits détails qui la rendent spéciale.
Une tradition entretenue par de nouveaux créateurs encore plus ambitieux comme Emma Maria Blanche. Cette jeune designer franco-suédoise fait avec son compagnon Frédéric Fey une percée remarquée sur la scène scandinave. Ils ont notamment développé une technique pour la conception de leur chaise dénommée Julius.
Donc on a été les premiers au monde en fait à coudre dans le bois, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant de pousser, on va dire, l'innovation, même avec des matériaux communs, et garder une identité suédoise peut-être et scandinave, et en même temps ajouter quelque chose. En fait, on adore tout ce qui est textile. Donc il y a quelques années, on a voulu essayer. Personne ne croyait, donc on a essayé tout seul, nous, dans notre atelier. On a acheté une machine à coudre, on a développé, on va dire, la technique, et on a réussi à faire une petite collection. Et après présenter à des éditeurs, et après on a poussé encore plus loin pour pouvoir justement faire un produit qui soit, on va dire, réalisable en production de masse.
Les clients restent avant tout scandinaves, mais il y a de plus en plus d'exports vers le marché asiatique, comme le confirme Charlotte Akmar, décoratrice chez Note Design.
Nous avons en ce moment plusieurs projets en Chine, il y a vraiment une attente là-bas pour quelque chose de nouveau, ils veulent aussi profiter de ce type de design. Bien sûr, il y a une grande distance entre nous, et je ne parle pas seulement de kilomètres, mais maintenant dans les intérieurs, ils veulent tous jouir de ce bien-être, et c'est très intéressant.
Un marché que la Suède compte bien continuer à approvisionner. Les statistiques montrent d'ailleurs qu'elle consolide sa position en Europe. L'export de chaises de bureau, par exemple, a augmenté de plus de 17% en 2016.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr, rubrique émission, et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Un nouveau point sur l'actualité.